Différents passages. Premièrement, un verset dans le 22e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 22, verset 1er. Et Jésus répondant leur parla encore en parabole, disant: Le royaume des cieux a été fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Chapitre 13 du même évangile. Verset 44. Encore, le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme, après l'avoir trouvé, a caché, et de la joie qu'il en a, il s'en va et vend tout ce qu'il a et achète ce champ-là. Encore, le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et l'acheta. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3e, à la fin du verset 4e, le mystère du Christ, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître aux fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit, savoir que les nations seraient cohéritières et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile, duquel je suis devenu serviteur selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été donné, selon l'opération de sa puissance. À moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché dès les siècles en Dieu qui a créé toutes choses, afin que la sagesse si diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée, selon le propos des siècles, lequel il a établi dans le Christ Jésus, notre Seigneur, en qui nous avons hardiesse et accès en confiance par la foi en lui. Dans le chapitre 2, au verset 19e, ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni forains, mais vous êtes concitoyens des saints et gens de la maison de Dieu, ayant été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la maîtresse pierre du coin, en qui tout l'édifice bien ajusté ensemble croit, pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui vous aussi vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Et dans le premier chapitre de cette même épître, au verset 19e, l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et autorité et puissance et domination, et de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, et l'a donné pour être chef sur toute chose à l'Assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Nous ne pouvons que retirer la plus grande bénédiction, le plus précieux enseignement de la considération, de la méditation d'un tel sujet, celui de l'Assemblée de Dieu. Objet des pensées éternelles du Père et du Fils. Et nous pouvons bien, comme nous l'avons déjà exprimé en prière, faire appel à tout le secours divin pour considérer de telles choses si précieuses. Au cours de ces diverses réunions, nous avons donc à cœur d'envisager, brièvement bien sûr, l'assemblée objet du propos divin, sa réalisation, sa mission et ses caractères, puis secondement sa réalisation en acte 2, le printemps de l'Église, qui a été rapidement suivi d'un déclin, face auxquels le Seigneur accorde des ressources précieuses, toujours actuelles et toujours suffisantes, pour maintenir le caractère de cette assemblée. Puis, évoquer la vie d'assemblée dans les diverses réunions d'assemblée, l'administration de l'assemblée, et passer peut-être à la considération du culte, de la scène et de la table du Seigneur, les caractères du témoignage selon Dieu, aujourd'hui comme alors, et la destinée céleste de cette assemblée épouse de Christ. Nous savons donc que l'assemblée de Dieu est l'objet des pensées éternelles du Père et du Fils. Il s'agit du propos divin, de son décret. Qu'est-ce que cela? Nous en donnons la signification à l'égard des jeunes, des enfants. Un conseil, un propos, un décret divin. C'est donc ce que Dieu a arrêté dans ses pensées, dans son cœur, comme devant être fait. Mais pour que ces pensées trouvent leur réalisation, il fallait donc l'œuvre de Christ, l'œuvre de la rédemption sur la croix. Il s'agit donc du propos de Christ à l'égard de sa créature qu'il veut rendre heureuse en dépit de sa chute, mais avant toute chose de sa pensée à l'égard de son Fils bien-aimé. Traduite d'une manière si précieuse et éloquente dans le premier passage que nous avons lu en Genèse 22, que le royaume des cieux a été fait semblable, a été fait, ce qui évoque la pensée passée de toute éternité, fait semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Car comme nous le lisons en Genèse 2, Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une épouse qui lui corresponde. » Nous limitons parfois une telle déclaration à l'union conjugale, mais nous savons bien que celle-ci est l'expression, la figure d'une liaison combien plus précieuse, éternelle, celle de Christ et de son Église, son épouse. Et c'est ce qui donne à l'union du mariage son niveau spirituel, son vrai caractère, sa noblesse, sa beauté selon Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu veut une épouse pour son fils. C'est le propos de Dieu. Et le propos du fils à l'égard de Dieu, son père, nous le connaissons également, c'était de lui amener un peuple d'adorateurs. Et c'est bien ce que nous lisons en l'ouverture de l'Apocalypse. Il nous a fait un royaume, des sacrificateurs ou des adorateurs pour son Dieu et Père. Pensée du Père à l'égard du Fils, pensée du Fils à l'égard du Père. Pour qu'elles trouvent donc leur réalisation, il faut l'œuvre de la rédemption. Le silence a été gardé, comme nous l'avons lu dans l'Épître aux Éphésiens, à l'égard de cette assemblée non révélée dans les temps anciens, sous la loi, nous ne la trouvons pas mentionnée dans l'Ancien Testament. Le silence a été gardé dès les temps éternels, lisons-nous en Romains 16. C'était une chose cachée, mais présente dans la pensée de Dieu, de toute éternité. Mais c'est le mystère caché. Nous l'avons lu, ce mot caché, le mystère caché dès les siècles en Dieu, comme le trésor était caché dans le champ, comme la perle était cachée au fond des mers. Mais le jour vient où ce mystère va être révélé. Il y a beaucoup de mystères dans la parole mentionnée, de nombreux mystères qui sont des mystères en bénédiction. Il y a aussi des mystères en jugement, le mystère d'iniquité, le mystère écrit sur Babylone elle-même. Mais au nombre des nombreux mystères mentionnés, nous avons deux grands mystères. Et ces deux grands mystères sont précisément Christ et son assemblée. Quant à Christ, nous connaissons bien le passage de Timothée, le mystère de la piété est grand. Le grand mystère qui consiste à la manifestation de Dieu en chair, dans la personne de Christ, en qui nous avons Dieu dans toute son essence, dans toute sa grâce, son amour, sa miséricorde, sa bonté, aussi bien que sa justice, sa sainteté et sa gloire. La plénitude de la déité s'est plu à habiter dans l'homme Christ Jésus. C'est le mystère de la piété, le grand mystère, dit l'apôtre. Mais le même apôtre nous parle d'un autre grand mystère, c'est son assemblée. Et après avoir traité précisément la beauté selon Dieu de l'union de la femme et de l'homme en Éphésiens 5, il peut dire, mais moi je parle relativement à Christ et à l'assemblée, et ce mystère est grand. Christ et son assemblée. Ce mystère était donc caché. Nous ne l'avons pas révélé dans l'Ancien Testament, mais il n'en demeure pas moins que le but de Dieu, la pensée de Dieu, son désir de sauver, de rassembler, était de toute éternité. Nous pouvons lire un verset qui souligne cette réalité dans le psaume 106e. Un seul passage. Le verset 47e du psaume 106. Sauve-nous, Éternel notre Dieu, et rassemble-nous d'entre les nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous glorifions de ta louange. Sauve-nous, rassemble-nous afin de te louer. C'est le propos de Dieu. Sauver, rassembler, il l'a fait pour son peuple Israël, il le fait maintenant pour ses rachetés. Et le but de ce salut, de cette délivrance et de ce rassemblement, c'est premièrement la louange, l'adoration, à l'adresse de celui qui est l'auteur d'une telle délivrance, d'un tel rassemblement, celui qui est au-dessus de toute louange, comme nous le lisons dans le livre de Néhémie. Israël a été mis au bénéfice d'un tel déploiement de grâce, de la grâce souveraine de Dieu. Et c'est avec ce peuple que se trouve la première des diverses réalisations de l'habitation de Dieu avec l'homme, car Dieu veut habiter avec sa créature. Nous ne voyons pas que la chose fut réalisée dans le jardin d'Éden, ni même dans la Genèse. Il faut qu'un peuple soit sauvé, qu'il soit rassemblé pour qu'il puisse habiter au milieu de lui. C'est alors Exode 29, 45. Il a sauvé ce peuple pour habiter au milieu de lui. Telle était la pensée de Dieu. Et c'est une chose très sainte. C'est une pensée qui nous remplit d'adoration, mais nous sommes sur un terrain saint. Une mise à part, une sanctification pour Dieu, par le moyen d'une œuvre en délivrance, il nous rassemble, il veut habiter au milieu de ceux qu'il a délivrés. Israël avait reçu pour partage, selon le choix de la grâce souveraine mentionnée en Deutéronome 7, fondé sur son amour et sur ses promesses, il l'a mis à part pour habiter avec lui, et Israël devait être sur cette terre le témoignage de Dieu. Mais nous savons ce qu'il en est advenu. Dans toutes les économies, à tous égards, l'homme ne répond pas à la pensée de Dieu, et ce que sa bonté lui confie, il l'altère. Nous savons ce qu'a été la vie d'Israël. Israël a transgressé la loi. Lorsque la sacrificature est instituée, la souillure y pénètre. Lorsque la royauté est établie, elle devient infidèle. Et lorsque les prophètes se font entendre, on méprise leurs paroles. Il nous suffit de lire la conclusion de cette disposition de rébellion constante de ce peuple dans le 36e chapitre du second livre des Chroniques où il nous est dit Au verset 16e, il se moquait des messagers, il méprisait ses paroles et se raillait de ses prophètes. Nous savons ce qu'il en est résulté, la déportation, mais la grâce de Dieu intervient, va rassembler, appelant par un réveil remarquable dans le livre d'Esdras, un résidu qu'il va ramener à Jérusalem pour accueillir le Messie. La parabole le disait, « J'ai encore un fils, je le leur enverrai, ils auront du respect pour mon fils. » Nous savons quelle a été la nature de l'accueil réservé au Seigneur, le roi, le Messie. Qu'a-t-on offert à celui qui venait établir un règne de bénédiction et de paix? Son peuple ne lui a réservé qu'une croix. Et d'une même voix, d'un même accord, on a prononcé ces paroles, « Crucifie-le, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Israël perd donc son caractère de témoin sur la terre et son privilège qui était unique parmi les nations. Et dès lors, le Seigneur va se tourner vers les nations. C'est le thème du chapitre 13 de Matthieu que nous avons considéré ici ensemble. Et où le Seigneur nous montre que, en vertu de son œuvre, une nouvelle habitation va trouver sa réalisation. Mais il faudra qu'il en paye le prix. Christ s'est livré lui-même, ayant aimé l'assemblée, c'est le passé et le fondement. Christ a aimé l'assemblée, il s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5. C'est par amour qu'ayant connu la valeur de ce trésor qui était dans le champ qu'est ce monde, il vend, il donne tout ce qu'il a, sa vie même, pour acquérir ce trésor caché, mais qui va être bientôt révélé. Il va descendre dans les profondeurs des mers. Nous connaissons les passages qui évoquent un tel chemin d'abaissement et de souffrance. Nous connaissons les expressions des psaumes 22, 69 du prophète Jonas et tant d'autres passages encore qui nous parlent de cette réalité que le Seigneur est descendu dans les eaux profondes, les algues ont enveloppé ma tête, pour acquérir cette perle dont il a discerné la très grande valeur. C'est un marchand connaisseur qui descend dans les eaux profondes pour acquérir cette perle de très grand prix. Son assemblée, qui va se substituer à Israël comme témoignage sur la terre. Le fondement va être posé. Quel est-il? Christ lui-même, son œuvre. Et c'est le Seigneur qui, précisément dans cet évangile messianique et royal, celui de Matthieu, va parler en premier de son assemblée. C'est dans cet évangile-là, précisément, en raison du rejet dont il est l'objet de la part de son peuple Israël, que le Seigneur parle lui-même de son assemblée par deux fois. Nous ne la trouvons pas mentionnée dans les autres évangiles. Il y a de nombreux types dans les évangiles qui nous parlent de son, dans l'Ancien Testament qui nous parlent de l'assemblée, mais elle n'est pas révélée. Nous pouvons les discerner à la lumière que nous donne le Saint-Esprit et les enseignements du Nouveau Testament. Mais elle n'est pas révélée. Le mystère était caché dès les siècles en Dieu. Maintenant, il va être donné à connaître. Après l'œuvre de Christ, dont le Seigneur établit et le fondement et le centre. Dans les deux mentions de cet évangile, au chapitre 16 et au chapitre 18, le Seigneur lui-même, parlant de son assemblée, parlant de cette maison qu'il va bâtir au futur, car la chose n'est pas encore réalisée, il faudra qu'il meure avant cela, qu'il ressuscite, qu'il soit glorifié, que le Saint-Esprit soit envoyé pour que cette assemblée soit réalisée. Mais il peut dire sur ce roc, je bâtirai mon assemblée, c'est la sienne. Et sur cette assemblée, comme dans le livre du Cantique des Cantiques au chapitre 5, sur ce jardin clos, on peut écrire propriété privée. C'est le domaine, c'est la maison du Seigneur. je bâtirai au futur mon assemblée. C'est la vraie maison bâtie sur le roc. Elle connaîtra les vents contraires, les tempêtes, mais elle ne saurait être détruite. Les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. C'est le travail du Seigneur. Dans la deuxième mention que le Seigneur nous donne au chapitre 18, il en établit le centre. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Réalisation de son propos. C'était le cas pour Israël. Il est maintenant réalisé au sein d'une assemblée qu'il va bâtir, mais à laquelle il fait une promesse, non pas au grand nombre, mais à deux ou trois assemblées, pour autant qu'il le soit, dans la réalisation de ce que son nom requiert, évoque et implique. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. C'est une présence personnelle. Si elle n'est pas corporelle, elle est personnelle. Nous la réalisons par l'action du Saint-Esprit. Le Seigneur est là. Le Seigneur donc établit dans cet évangile le fondement et le centre. Mais nous le comprenons, lorsqu'une maison est édifiée, la première chose qui est réalisée, ce sont les fondements. Et la parole de Dieu accorde une place et une importance particulière sur les fondements des maisons. Il nous suffit de lire l'édification du temple de Salomon. Les pierres de fondement et ce qui fait l'attrait d'une maison, c'est le centre, c'est la personne qui en est et le maître et le propriétaire, le centre d'attrait. Nous venons là, nous faisons partie intégrante de cette maison parce qu'il est là, parce qu'elle est établie sur un fondement inébranlable et parce que nous y sommes attirés par un centre, la personne même de Christ. Nous passons au livre des Actes, au chapitre second. Chapitre second du livre des Actes. Comme le jour de la Pentecôte s'accomplissait, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Et il se fit tout à coup du ciel un son comme d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et il leur apparut des langues divisées comme de feu, et elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint, et commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. Rappelons a priori que l'économie de la grâce ou celle de l'Église ne fait pas partie de la prophétie. C'est un temps durant lequel on dit communément que l'horloge prophétique est arrêtée. S'il s'agit de la vie d'Israël, soit dans le passé, soit dans les phases futures et le rétablissement de ce peuple, nous avons des dates qui sont très précises. Même la durée de la tribulation par laquelle ce peuple devra passer avant d'être restauré spirituellement, avant que ce règne millénaire s'établisse, c'est le règne différé, car Dieu ne renonce jamais à ce qu'il a arrêté dans son cœur, et si le Seigneur n'a pas pu réaliser son royaume en venant comme Messie ici-bas, il n'a renoncé ni au titre de roi, ni au droit au royaume. Et il s'établira avec une gloire beaucoup plus grande que celle du royaume qui n'a pas pu se réaliser. Mais toutes ces choses-là relatives à Israël sont marquées par des temps déterminés, exprimés en années, voire même en mois, et souvent même en jours. Mais il n'en est pas de même pour l'Église. Pour l'Église, c'est une parenthèse de durée indéterminée. Il n'y a aucune échéance, il n'y a rien qui nous dicte ou nous fasse connaître la durée d'une telle période. Quelle est la seule échéance que nous attendons? Nous attendons le Seigneur. Quelle est la date qui nous est donnée? Aucune. C'est ce mot de bientôt qui résonne aux oreilles et au cœur à la fois depuis bientôt 2000 ans. Il n'y a donc pas de date. Cette assemblée trouve sa réalisation et s'intercale, on peut dire, dans le courant prophétique et chronologique des faits qui nous sont relatés dans la parole. Le passage que nous avons lu dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 nous dit que nous ne sommes plus forains et étrangers, mais nous sommes devenus gens de sa maison. En quelque sorte, le croyant qui a passé par la nouvelle naissance, par la conversion, a changé de bourgeoisie. Car par nature, incrédule, loin de Dieu, sans relation avec Dieu, il était bourgeois de ce monde. Il était étranger quant à Dieu, mais étant introduit dans cette relation filiale et vitale d'enfant de Dieu, il devient du même coup étranger et forain quant à ce monde, mais il devient gens de sa maison, il fait partie de cette maison. Nous sommes maintenant, comme croyants, comptés au nombre de ceux qui constituent cette habitation de Dieu par l'Esprit. Et dans ce deuxième chapitre du livre des Actes, nous assistons précisément au moment où l'Assemblée a trouvé sa réalisation, au jour de la Pentecôte. Nous savons bien que la Pentecôte était la quatrième fête, la fête centrale instituée pour le peuple juif par Dieu lui-même, cette quatrième fête qui était célébrée le lendemain du septième sabbat suivant la Pâque, d'où le mot de Pentecôte au cinquantième, 50 jours après le sabbat faisant suite à la Pâque. 7 sabbats, 7 semaines après que la gerbe des prémices et était tournoyée, figure de la résurrection de Christ. Et en ce jour de la Pentecôte, nous avons donc les croyants qui se trouvent rassemblés en un même lieu. Le Seigneur avait déjà rendu visite à ses rachetés, ses disciples rassemblés. Le chapitre 20 de l'évangile de Jean nous le relate, lorsque le soir du premier jour de la semaine, ce jour de la résurrection du Seigneur, il se présente aux siens, se tenant au milieu d'eux, venant par sa présence sceller la promesse qu'il leur avait faite en Matthieu 18. Il leur avait dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et le jour même de la résurrection, le Seigneur apparaît au milieu des siens rassemblés, se présente à eux, on peut dire, comme le premier-né de la famille du Père. Et quel est le résultat de la présence du Seigneur après son œuvre, après sa résurrection, le Seigneur leur faisant voir les marques de ses souffrances, attestant tout à la fois la réalité de ses souffrances, de sa résurrection et la réalisation de sa promesse. Ils se réjouirent quand ils virent le Seigneur. C'est ce que nous devrions éprouver chaque fois que l'invitation nous est faite de nous trouver là, dans la présence du Seigneur, se réjouir parce que nous sommes avec le Seigneur. C'est le centre d'attrait de cette maison. Au jour de la Pentecôte, la promesse qu'il avait faite à ses disciples de rester à Jérusalem au début de ce livre des Actes se réalise. Ils sont assemblés et le Saint-Esprit descend, accompagné d'un souffle violent et impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit descend. Lorsqu'il est descendu sur le Seigneur qui remontait des eaux du Jourdain, il n'est pas descendu sous cette forme. Il descendit sous la forme corporelle d'une colombe, car dans le Seigneur, il n'y a rien, aucun élément qui requiert une purification, une sanctification. Il n'y a rien qui fasse obstacle à cette descente du Saint-Esprit qui va habiter sur l'homme du conseil de Dieu, qui n'est pas à confondre avec ceux qui sont entrés dans les mêmes eaux pour se repentir. Il descend sous la forme corporelle d'une colombe. Mais ici, le Saint-Esprit vient élire domicile dans la maison de Dieu, dans ses croyants, mais dans lesquels il y a encore la chair et des éléments qui font obstacle, raison pour laquelle il descend sous une autre forme, sous la forme de langue de feu accompagnée d'un vent violent, ce qui évoque la pensée qu'il y a dans le croyant et dans la maison de Dieu, en raison de ce que nous sommes encore, quant à nous-mêmes, il y a des éléments contraires. Et le Saint-Esprit se présente et descend sous cette forme-là. C'est ce que l'apôtre au chapitre 12 de la première épître aux Corinthiens nomme ce baptême du Saint-Esprit. Nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps, dit-il. C'est donc un baptême du Saint-Esprit par lequel tous ces rachetés, rassemblés, sont constitués comme étant un seul corps, le corps de Christ. C'est le moment précis, initial, où le corps de Christ a été constitué, corps mystique, spirituel, non pas le corps physique du Seigneur ressuscité, nous le comprenons bien, mais le corps mystique et spirituel constitué par tous les rachetés qui se trouvent à un moment précis sur la terre. Le corps de Christ, ce sont donc des croyants sur la terre. Il y a donc cette petite différence par rapport à l'assemblée qui est constituée par tous les rachetés du Seigneur depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, aussi bien ceux qui ont été repris et qui sont auprès du Seigneur, attendant sa venue comme nous-mêmes, que nous qui sommes sur la terre. Alors que le corps de Christ se trouve sur la terre, un corps de Christ dans lequel il y a ceux qui entrent par la nouvelle naissance, il y a ceux qui sont repris, qui s'en vont auprès du Seigneur. C'est un corps qui connaît un renouvellement constant, comme un corps d'armée qui se renouvelle par ceux qui entrent et par ceux qui sortent. Mais bien sûr que ceux qui ne sont plus sur la terre font partie éternellement de cette assemblée, de cette habitation de Dieu par l'Esprit. Mais ce corps est donc constitué ce jour même de la Pentecôte. Et dès lors, il sera sur la terre. Et s'il y a un corps sur la terre, il y a donc une tête. Et la tête, c'est le Seigneur. La tête du corps glorifiée dans le ciel. Il n'y a aucune division dans le corps. C'est impossible. Aucune division. Il ne peut pas y avoir vie s'il y a division entre la tête et le corps. Nous le comprenons bien. Et si le Seigneur est la tête glorifiée dans le ciel, les siens sur la terre constituent son corps. Et nous sommes, comme croyants, membres individuels du corps de Christ. En particulier, dit l'apôtre qui traite ce sujet avec force détail dans le 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Et il nous a placés les uns et les autres dans le corps en vue d'accomplir un service, une fonction, en vue de l'utilité, comme il l'a voulu. Aucun membre ne choisit sa place dans le corps, pas plus que nos membres physiques dans notre corps physique. Ils sont placés par le Créateur à leur place pour remplir leur fonction, en vue de la santé et du fonctionnement harmonieux de ce corps qu'est notre corps. De même, dans le corps de Christ, constitué par tous les rachetés, il nous a placés les uns et les autres comme il l'a voulu, en vue de l'utilité, en vue de la santé spirituelle, de la croissance et de la bénédiction et de la vie harmonieuse et spirituelle de ce corps spirituel qu'est le corps de Christ. Il est donc constitué ce jour de la Pentecôte. Ce n'est pas la conscience que l'on en a ou la connaissance que l'on en a qui fait qu'un croyant appartient au corps de Christ, un croyant qui a peut-être une connaissance limitée des choses, peut ignorer totalement qu'il est un membre du corps de Christ, il n'en demeure pas moins qu'il est un membre de ce corps. Et quelle grâce, quelle condescendance divine si nous pensons au fait qu'il est dit de ce corps de Christ, les rachetés sur la terre, qu'ils sont la plénitude. Nous l'avons lu dans cet épître aux Éphésiens au chapitre 1er, sauf erreur. Il l'a donné pour être chef sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Le complément de la tête, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Lié à Christ de manière indissoluble, faisant un avec lui. Il n'y a pas de séparation dans le corps. Voilà ce corps constitué. Ce jour de la Pentecôte et depuis lors, il ne cesse d'exister. Le Saint-Esprit est donc entré ce jour-là dans les croyants et dans l'assemblée. Nous en avons une figure bien éloquente dans le livre de l'Exode, lorsque on applique l'onction sainte, qui est une figure du Saint-Esprit, et qu'on en fait aspersion aussi bien sur le tabernacle que sur les sacrificateurs. Cette action, cette présence, cette onction du Saint-Esprit sur la maison de Dieu et sur ceux qui l'occupent, sur les sacrificateurs. Et dès lors, dans cette maison, tout va se passer sous la puissance et les directions de ce même Esprit. Donc nous avons trois éléments constitutifs de cette assemblée, le fondement, le centre et la puissance. La puissance agissante, la seule même qui a le droit d'agir, c'est le Saint-Esprit. C'est la seule puissance agissante dans l'Assemblée. Nous savons bien que le Saint-Esprit n'a opéré depuis les temps les plus reculés. Et nous avons la mention dans l'Ancien Testament d'hommes de Dieu qui étaient même remplis de l'Esprit et qui œuvraient pour, selon la pensée de Dieu, étant dirigés et rendus intelligents par le Saint-Esprit, mais qui opérait comme puissance agissante. Mais l'habitation du Saint-Esprit comme personne divine est exclusive à la période de l'Église, dans l'Assemblée et dans les croyants de cette économie. Mais nous avons des manifestations remarquables de l'Esprit dans l'Ancien Testament. On peut être, et tous les croyants le sont, mis au bénéfice de la présence de l'Esprit. Mais nous avons une expression digne d'être soulignée ici, ils sont remplis de l'Esprit. Et une telle déclaration est liée à la personne et au ministère, par exemple, d'Étienne et d'autres encore, remplis de l'Esprit. Avoir l'Esprit comme croyant est une chose, être rempli de l'Esprit démontre une disposition qui témoigne du fait que nos pensées sont aux choses saintes et que le Saint-Esprit est la source qui nourrit et qui produit nos pensées, remplies de l'Esprit. Dieu veuille que ce soit le cas. Quelle est la manifestation à ce jour de la Pentecôte? Ils commencèrent à parler d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'énoncer. N'avons-nous pas comme une réponse de la grâce, si nous confrontons cette circonstance à celle de la tour de Babel? À la tour de Babel, les hommes se sont unis dans un sentiment commun d'élévation et d'orgueil pour construire une tour. Mais Dieu n'aime pas les orgueilleux et il les frappe d'un jugement diversifiant leur langage, de telle manière qu'ils sont dispersés, ils ne peuvent pas mener à chef ce qui s'était proposé. Mais ici, nous avons véritablement une réalisation de ce que nous lisons par ailleurs, que la grâce se glorifie vis-à-vis du jugement. Ce jour où on peut dire l'édifice de la grâce se réalise, ce chef-d'œuvre de l'amour qu'est l'Assemblée trouve sa réalisation, nous avons la réponse de Dieu à ce jugement qu'il avait donné en Babel. Il donne la capacité par l'Esprit d'annoncer dans diverses langues les choses magnifiques de Dieu. C'est la réponse de Dieu en grâce qui vient se confronter à la déclaration de Dieu en jugement à la tour de Babel. Nous disions que dans l'Assemblée, tout se fait par l'Esprit. En effet, il y a deux puissances qui peuvent agir dans le croyant. Chez le non-croyant, il n'y en a qu'une. Chez le croyant, il y a deux puissances agissantes. Il y a l'esprit et il y a la chair. Mais la chair, où a-t-elle été? Où a-t-elle trouvé sa place à la croix de Christ? Dans la mort. La chair a trouvé sa fin dans la croix de Christ. Et le croyant qui réalise avec le secours de la grâce divine, car nous réalisons combien nous en avons besoin, ce qu'est l'œuvre de Christ chez lui, qui a mis fin à l'homme en Adam, à l'homme en la chair, vit par l'Esprit, marche par l'Esprit, et est appelé à être rempli de l'Esprit. Donc, dans le croyant, il y a coexistence et de la chair et du nouvel homme. Elle n'a ni droit ni place, ni autorisation d'agir, voire même de pénétrer dans la maison de Dieu. On en a une figure très éloquente dans le tabernacle, car le rideau d'entrée, non pas la porte ni le voile, mais le rideau du premier sanctuaire était soutenu par 5 piliers reposant sur 5 bases d'airain, alors que les autres bases des ais étaient d'argent, 5 bases d'airain comme un seuil d'airain, et nous savons bien que l'airain exprime le jugement contre le péché. De telle manière que le sacrificateur, après avoir passé à l'autel des reins, à la cuve des reins, franchit encore, figurativement parlant, un seuil des reins, lui rappelant que le péché n'a pas de droit, n'a pas d'accès dans ce sanctuaire. Et un des caractères liés à la maison de Dieu, c'est la sainteté, ne l'oublions pas. Et chacun peut souligner, dans les descriptions répétées, et diversifié du tabernacle et de ce qui le constitue et de l'activité des sacrificateurs, le nombre de fois qu'il est dit, c'est une chose très sainte. Et n'oublions pas, si Dieu est le même en amour, en grâce, en fidélité, en bonté, il l'est aussi en sainteté. Et la faiblesse qui nous caractérise, la fin des temps que nous aimons à évoquer pour nous excuser, ne font fléchir en rien la sainteté divine. Il est immuable dans tous ses caractères. Mais il nous donne des ressources précieuses. Mais il est resté le même. Et c'est à des croyants dans l'Épître aux Hébreux qu'il peut être dit « Notre Dieu est un feu consumant ». Non pas « était un feu », « est un feu consumant ». Nous avons affaire à un Dieu saint. Mais en Christ, nous avons cette justice, cette sainteté, de laquelle nous sommes revêtus et parés, en lui nous avons la mesure de notre acceptation devant Dieu, rendus saints, irrépréhensibles, parfaits à perpétuité. C'est notre position dans le Seigneur qui nous permet d'être sans conscience de péché, c'est-à-dire n'étant plus préoccupés quant à la question du péché lorsque nous nous trouvons dans sa maison, lorsque nous nous trouvons devant Dieu. Il y a l'aspect pratique, qui fait appel alors au jugement de nous-mêmes. Le Saint-Esprit a donc, et la seule puissance, autorisée à agir dans le rassemblement. Que lisons-nous dans les Épîtres? Dans les Épîtres de Paul, puisque c'est lui l'apôtre que le Seigneur a appelé et formé pour développer toute la réalité et la beauté de cette unité du corps de Christ, lui qui, en bonne conscience, persécutait précisément ce corps de Christ en persécutant les rachetés du Seigneur. « Je suis Jésus que tu persécutes. » C'est à lui que l'apôtre va lui apprendre qu'en touchant aux croyants, il touchait à Christ lui-même, car nous sommes un avec notre Seigneur, et c'est lui qui va développer cela. Et nous dire que nous prions par l'Esprit et par l'intelligence. Nous chantons par l'Esprit et avec l'intelligence. Et le ministère de la parole de Dieu se fait par l'Esprit. Il y a diversité de dons de grâce, le même Esprit, le même Seigneur. Et nous rendons culte par l'Esprit. Remarquons que toutes les activités du racheté, et spécialement dans la maison de Dieu et dans l'Assemblée, se réalisent sous la puissance et les directions du Saint-Esprit. Prier, chanter, exercice du ministère de la parole de Dieu, rendre culte par l'Esprit. Donc, si tout se fait par l'Esprit, il y aura nécessairement la manifestation des caractères de cet Esprit. Quels sont-ils? Nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Et si l'Esprit agit, parce que la chair a été jugée, parce que nous paraissons devant le Seigneur avec des cœurs jugés, chacun s'étant éprouvé soi-même, il y aura alors ces manifestations des caractères de l'esprit, de la puissance, de l'amour qui se réjouit avec la vérité, qui nourrit les cœurs et attache les affections à Christ, et un esprit de sobre bon sens, de conseil, qui donne la perception de la pensée de Dieu en vue de l'honorer et en vue de l'édification commune dans l'Assemblée. Tout se fait par l'esprit. S'il n'y a pas l'esprit, alors c'est le désordre, c'est la chair, c'est l'activité de l'homme. Et nous pouvons même remplir une activité religieuse, voire même orthodoxe, si on nous passe l'expression, mais qui ne soit pas le fruit de l'esprit. Peut-être pourrons-nous le voir en rapport avec le sujet du culte. Mais tout se fait dès lors par l'esprit. L'esprit est descendu, il lie ses croyants en un seul corps, et il va être dès lors la puissance agissante dans cette assemblée, dans cette maison. Encore un passage dans le chapitre 2 également, au verset 42e. Et il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain et les prières. Et toute âme avait de la crainte, et beaucoup de prodiges et de miracles se faisaient par les apôtres. Et tous les croyants étaient en un même lieu, et ils avaient toutes choses communes. Et ils vendaient leurs possessions et leurs biens, et les distribuaient à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin. Et tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple, et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Persévérance. Il était déjà parlé de persévérance au chapitre 1er. On peut peut-être être surpris de la mention de la persévérance au début, au printemps de l'Église. Mais nous savons bien, nous nous connaissons quelque peu nos cœurs, le Seigneur les connaît beaucoup mieux que nous. Si nous ne persévérons pas au début, il est fort peu probable que nous persévérions par la suite. Persévérer dès le départ est dans trois choses. Il persévérait dans la doctrine et la communion des apôtres, c'est-à-dire dans l'enseignement fondamental et structurel que donnaient les apôtres, un enseignement oral, nous le comprenons bien. Ils n'avaient pas encore l'intégralité de la parole comme nous l'avons. Il persévérait, demeurait attaché à cet enseignement fondamental qui conditionne la réalisation de la maison de Dieu. C'est la réunion d'édification en germe. La deuxième chose, il persévérait dans la fraction du pain. Nous avons une évocation déjà de ce rassemblement en vue de se souvenir de la mort du Seigneur, le culte. Deuxième chose, et la troisième, est dans les prières, la réunion de prières. Nous avons déjà en germe, avant même que les enseignements de l'apôtre Paul soient donnés, cette persévérance dans ces trois domaines qui constitue le cycle complet de la vie d'assemblée. Et il y a des fruits à cela. À cette triple persévérance s'ajoutent des fruits, un fruit complet. Et nous l'avons lu dans les versets qui suivent, chacun peut méditer ces sept caractères qui font suite à cette triple persévérance et qui sont un ensemble combien précieux et béni, lié à ce souffle printanier de l'existence de l'Assemblée sur cette terre. Première chose, toute âme avait de la crainte. S'il y a tant de faiblesses dans notre marche individuelle et dans la vie d'Assemblée, est-ce qu'il n'y a pas, comme pierre de touche ou comme motif à un tel déclin, le manque de crainte? Non pas la peur, nous le saisissons bien, mais cette crainte, c'est-à-dire ce sentiment du cœur qui redoute tout ce qui serait de nature à déshonorer le Seigneur. La crainte de le déshonorer, marcher dans sa crainte. Première chose. La seconde chose, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient. Nous savons bien que ces manifestations de puissance pour accréditer l'Esprit et la présence de l'Esprit ont été réalisées dans un temps limité au début. Il s'agit de dons que l'on a appelés communément les dons signes, qui sont de durée passagère comme celui du don des langues. Mais il n'en demeure pas moins que nous avons une manifestation de puissance. La crainte, la puissance. Certes, les miracles et les prodiges ne nourrissaient pas les cœurs, ils n'ont pas amené à la vie, ils n'édifiaient pas, mais ils attestaient la réalité de la puissance et de la présence du Saint-Esprit. Mais deuxième caractère, c'est en cela que nous soulignons, c'est la puissance. Le troisième, ils étaient tous dans un même lieu avec toutes choses communes, c'est la communion. La jouissance en commun des mêmes choses. La communion. Et la quatrième, notons que c'est la centrale, ils vendaient leurs possessions et leurs biens, les distribuaient à tous selon que quelqu'un pouvait en avoir besoin, c'est l'amour. Le détachement des choses périssables qui est le résultat de l'attachement aux choses impérissables. Les cœurs sont attachés au ciel et détachés de la terre, c'est l'amour. C'est le point central, le quatrième caractère des sept. Et le cinquième, ils persévéraient tous d'un commun accord dans le temple, rompant le pain dans leur maison, prenaient leur nourriture avec joie. Ils avaient de la joie. Il y a parfois fort peu de joie dans nos cœurs, nous devons bien le reconnaître. Ils avaient de la joie, mais la joie est un produit de la paix. Pour qu'il y ait la joie, il faut qu'il y ait la paix. Et le Seigneur l'avait faite et l'avait communiquée en Jean 20. Paix vous soit. Donc, il y a de la joie. Cinquième caractère. Le sixième, ils prenaient leur nourriture avec simplicité de cœur, louant Dieu. Des dispositions de cœur à la louange, une reconnaissance constante. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu. Ce n'est pas seulement une heure et demie le dimanche matin. Sans cesse à Dieu. Ils louaient Dieu, des dispositions de cœur reconnaissant. Et septièmement, la faveur de tout le peuple, un témoignage rendu face au monde. Sept caractères qui brillent d'un éclat merveilleux et divin à l'aurore de cette vie d'assemblée. N'avons-nous pas comme une manifestation de ce que nous lisons au premier verset du 9e chapitre du livre des Proverbes? La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses colonnes. La nature et les caractères de l'assemblée sont divins. Quant à sa position et sa destinée, elles sont célestes. C'est ce qui donne à l'assemblée toute sa valeur. Elle n'est pas liée à cette première création. Elle est de destinée, elle a une destinée céleste, une nature divine. Mais ici-bas, elle est étrangère dans ce monde. L'Église est étrangère, chantons-nous. Mais elle a une mission dans ce monde. Elle a une mission bien précise. L'apôtre le souligne en écrivant à son enfant Timothée et en lui disant comment il doit se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne et le soutien de la vérité. Voilà ce qu'est l'assemblée dans ce monde. Il n'est pas dit une colonne. Elle est la colonne et le soutien de la vérité. C'est l'assemblée qui a reçu cette mission ici-bas d'être l'unique colonne, il n'y en a pas d'autre. Nous l'avons lu dans l'Épître aux Éphésiens, ces choses ont été révélées et communiquées à l'Assemblée. Elle est la colonne et le soutien de la vérité. Et si l'Assemblée perd ce caractère, s'écarte de la vérité et n'en est plus l'expression de cette colonne, la lampe peut être enlevée de son lieu, elle perd son caractère d'Assemblée. L'Assemblée est la colonne et le soutien de la vérité. Ces choses sont dignes de louange et de reconnaissance. Nous ne pouvons pas nous allonger, l'heure est là. Si le Seigneur nous l'accorde, nous pourrons peut-être considérer demain la vie de l'Assemblée dans les réunions d'Assemblée. Mais en conclusion, combien nous pouvons unir nos cœurs dans une commune et collective louange à la considération de ce propos divin à l'égard de sa créature, mais aussi et surtout ce propos divin à l'égard du Seigneur lui-même. Et nous pouvons bien, devant ces pensées qui sont merveilleuses, ces conseils qui datent de loin, qui sont fidélité et vérité, nous approprier ces déclarations de l'apôtre qui constituent la clôture de ce 11e chapitre de l'Épître aux Romains et dire avec lui, ô profondeur des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables, car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et lui sera rendu, car de lui, par lui et pour lui sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Suivre notre lecture dans le livre des Actes, au chapitre 4e, verset 32. Livre des Actes, chapitre 4, verset 32. Et la multitude de ceux qui avaient cru était un cœur et une âme, et nul ne disait d'aucune des choses qu'il possédait qu'elle fût à lui. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. Chapitre 5. Mais un homme nommé Anania, avec Saphira sa femme, vendit une possession et de connivence avec sa femme mit de côté une partie du prix et en apportant une partie la mit aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur que tu aies menti à l'Esprit-Saint et que tu aies mis de côté une partie du prix de la terre? Si elle fût restée non vendue, ne te demeurait-elle pas? Et vendue n'était-elle pas en ton pouvoir? Comment t'es-tu proposé cette action dans ton cœur? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Et Anania, entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte s'empara de tous ceux qui entendirent ces choses. Verset 11. Et une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui entendaient parler de ces choses. Et beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient parmi le peuple par les mains des apôtres, et ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Mais d'entre les autres, nul n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Et des croyants d'autant plus nombreux se joignaient au Seigneur, une multitude tant d'hommes que de femmes. Chapitre 9, 1 verset. Le verset 31e. Les assemblées donc par toute la Judée et la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées, marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par la consolation du Saint-Esprit. Seconde Épître à Timothée, chapitre 2, verset 19. Le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens, et qu'il se retire de l'iniquité quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Et les uns à honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Nous avons donc été occupés hier soir de ce sujet combien précieux et édifiant qu'est celui de l'Assemblée, la parole nous ayant rappelé la place qu'elle occupait de toute éternité dans les pensées de Dieu, étant l'objet de son propos éternel, caché durant les siècles passés, mais révélé en son temps, et dont la réalisation fait suite à l'œuvre de la rédemption, à la résurrection et à la glorification du Seigneur, et à la descente du Saint-Esprit en ce jour de la Pentecôte, dans le second chapitre du livre des Actes, jour auquel la promesse du Seigneur faite aux disciples se réalisant, ces croyants rassemblés ont été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. Ce corps de Christ sur la terre constitué par les enfants de Dieu, corps duquel le Seigneur est la tête glorifiée dans le ciel. Cette liaison indissoluble des rachetés avec le Seigneur, identifiés à Christ de telle manière que l'apôtre, traitant ce sujet dans le 12e chapitre de la première épître aux Corinthiens, peut dire de ce corps, ainsi aussi est le Christ. Nous avons été placés par la parole également devant le rappel des caractères de cette assemblée et de la mission qui lui est confiée durant son pèlerinage ici-bas. Sa nature divine, son caractère céleste, sa destinée céleste et la mission qui lui est donnée en sa qualité de colonne et de soutien de la vérité dans ce monde. Nous soulignons que l'Assemblée n'est pas la vérité, le Seigneur lui-même et sa parole sont la vérité. Lui-même l'ayant dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Ta parole est la vérité. L'Assemblée a pour devoir et pour privilège d'en être la porteuse dans ce monde, la colonne. Comme aussi l'Assemblée n'enseigne pas, elle n'édifie pas, l'Assemblée est édifiée, elle est enseignée par le ministère de la parole et par l'exercice des dons que le Seigneur a confiés aux siens. On peut considérer l'Assemblée du Seigneur sous deux aspects. Nous avons à la considérer sous deux aspects bien distincts. D'une part, ce qu'elle est en Christ pour Dieu. Sous cet aspect-là, nous la verrons selon le fruit du travail de son âme qui ne peut être que merveilleux, parfait et glorieux. Comme aussi cette unité de laquelle nous avons exprimé dans le cantique la réalité, cette unité est à la gloire de celui qui l'a réalisée, qui l'a constituée par son propre esprit. Et nous n'avons pas de crainte, bien au contraire, en chantant que l'unité de ton Église est belle, car elle est belle, digne de celui qui l'a créée. Grâce à Dieu, elle n'est pas conditionnée à la mesure dans laquelle nous pénétrons une telle réalité, dans la mesure aussi dans laquelle nous la réalisons ou la proclamons. Elle est le fruit de son travail, le résultat de la descente du Saint-Esprit. La considération de l'Assemblée selon ce qu'elle est comme fruit du travail de la grâce divine, comme résultat de l'œuvre de Christ, réalisation du propos divin est un sujet qui ne peut que nous remplir de louanges, de reconnaissance, d'adoration. Et nous serons toujours encouragés, réconfortés, en considérant l'assemblée selon ce qu'elle est en Christ pour Dieu. Et la considérant sous cet aspect, nous ne pourrons que l'aimer. Car si nous n'aimions pas l'assemblée que Christ a aimée et pour laquelle il s'est livré lui-même, nous serions plus difficiles que lui. Mais nous avons aussi à considérer l'assemblée sous l'aspect de sa responsabilité, c'est-à-dire la mesure dans laquelle elle manifeste pratiquement les caractères qui sont les siens, sous cet aspect-là de la responsabilité, bien sûr. Il y a des motifs d'humiliation, des sujets qui nous conduisent à baisser la tête. Et nous ne pouvons que reconnaître que souvent, cette assemblée, quant à son témoignage pratique, ne manifeste pas toute la lumière qu'elle est appelée à refléter dans ce monde. Il en est de même du croyant lui-même, quant à sa position en Christ, position inaltérable, acquise pour l'éternité. Nous avons à considérer tout croyant comme un homme en Christ. Quant à la marche pratique, il y a les manifestations de la faiblesse inhérente au fait que nous avons encore la chair en nous-mêmes, que nous avons tant de peine à maintenir là où Christ l'a placée, c'est-à-dire dans la mort. Nous avons lu dans le premier passage de ce chapitre 4, car nous ne voulons pas nous arrêter longtemps sur les différentes portions lues, le temps nous manquant, mais que cette multitude était un cœur et une âme. En quelque sorte, c'est la réalisation et l'exaucement de la prière du Seigneur en Jean 17, dans laquelle il demande entre autres qu'ils soient un, et cette unité, unité, un seul corps, c'est un aspect de l'unité, mais l'unité morale et spirituelle devient une unité de témoignage. Et nous voyons dans ce souffle printanier de l'Assemblée, que traduit encore ce passage, un équilibre remarquable et digne d'être souligné, à savoir qu'il rendait avec une grande puissance le témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce était sur eux tous. La puissance et la grâce, tous deux manifestés dans une mesure remarquable. La puissance n'enlève pas la grâce, et la grâce n'enlève pas la puissance. Au chapitre 5e, nous avons une parole qui ouvre un thème nouveau, un « mais ». Comme nous en avons du reste plusieurs dans le cours des Écritures, ces mais qui introduisent un changement de disposition. Nous en trouvons un dans la vie d'Achan, un autre dans la vie d'Ozias, un autre encore dans la vie de Salomon, où les choses qui semblaient correspondre à la pensée de Dieu sont altérées. Nous savons bien que tout ce que la grâce divine a confié à l'homme, au cours des diverses économies, l'homme n'a su que le gâter, que l'altérer. Nous pourrions penser, l'Église va échapper à cette règle. Étant donné qu'elle est placée sur un terrain de vie, de résurrection, qu'elle participe de la nature divine, comme dit l'apôtre Pierre, elle va donc échapper à cela. Et nous voyons, nous constatons que tel n'est pas le cas. La chair est encore là. Et ce chapitre 5 s'ouvre par un de ces « mais » si douloureux qui est une introduction à l'action de l'ennemi qui va pénétrer et œuvrer et dans les cœurs et par cela dans l'assemblée. C'est à ce niveau-là, au chapitre 5, par ce « mais » que commence l'ensemble de ces tableaux qui font l'objet des chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse et qui nous tracent la vie de l'Assemblée dès son début jusqu'à la fin sous l'aspect de sa responsabilité. Mais nous devons constater que si des choses peuvent être cachées aux hommes, devant le Seigneur, nous avons affaire à celui devant qui toutes choses sont nues et découvertes. Et ce que Anania et Saphira ont commis dans une commune entente ne passe pas inaperçu aux yeux de celui qui scrute les cœurs. Et ce chapitre, au début, nous montre donc cette action, cette intervention en jugement, en voie gouvernementale à l'égard d'Anania et de Saphira. Nous ne pouvons pas nous étendre sur ce sujet, mais nous désirons retirer l'enseignement qui est inclus d'une manière particulière dans les versets 11 à 14. Le mal est donc ôté. Dans l'Ancien Testament déjà, à l'intention de la vie d'Israël, cette injonction divine avait été donnée, « Tu ôteras le mal du milieu de toi-même ». Ce n'est pas une invitation seulement, c'est une injonction, c'est un